Il est 8h38.
France Inter, le 6-9 du week-end.
Intervenez au 01 45 24 7000. Les invités ce matin, le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson, et l'humoriste Frédéric Sigrist. On va continuer de débattre sur l'humour, sa place à côté ou dans l'information. On va en parler dans un instant. D'abord, Patricia Martin, on a voulu recevoir ce matin la directrice de France Culture, Sandrine Trainer.
Bonjour madame la directrice.
Bonjour amis de France Inter.
Et nous vous recevons parce que la semaine dernière, alors que nous avions ici même dans ce studio Jean-Louis Bourlange, nous avons dit, j'ai dit une grosse bêtise, c'est que l'Esprit Public, l'émission hebdomadaire du dimanche, donc entre 11h et midi, sur France Culture, n'existait plus. C'est absolument faux. Vous avez bondi quand vous avez entendu ça?
En fait, ce sont quelques auditeurs, vous savez, Patricia, que nous partageons des auditeurs, l'audiovisuel public et cet heureux partage des auditeurs, et donc ils ont tweeté, ils m'ont interpellé en me disant « mais comment ça, l'Esprit Public n'existe plus ? Mais nous, on vous écoute, et de plus en plus nombreux, tous les dimanches à 11h ». Et vous avez eu la gentillesse de me proposer de venir vous voir ce matin pour en dire deux mots. Et je remercie aussi Laurence Bloch, ma consoeur.
L'erreur est donc réparée.
L'antenne d'avoir fait cette même proposition.
Et que par ailleurs, Jean-Louis Bourlange, qui a dit qu'il avait été entre guillemets écarté de l'émission, ne l'a pas été, que c'est pour des questions de
temps de parole politique.
Non, alors on va pas revenir sur les questions de l'année dernière. On a vu l'an passé d'ailleurs, et on verra comment vont évoluer les réglementations en matière de temps de parole politique, de pluralisme, d'équité sur nos antennes.
C'est quand même un casse-tête, il faut le savoir pour les directeurs.
C'est absolument un casse-tête. Et du reste, quand Jean-Louis Bourlange était député européen, puisqu'il l'a mentionné la semaine dernière, lorsqu'il était député européen jusqu'en 2007, les décrets d'application de la loi de 86 n'avaient pas encore, de la loi sur la communication, n'avaient pas encore été appliqués. Aujourd'hui, on est régi en période électorale par des nécessités de pluralisme, qui, à défaut d'autre chose, reste quand même un des garants de l'équilibre des positions politiques sur les antennes.
Eh bien, dont acte, et on ira écouter l'Esprit Libre donc sur France Culture,
voilà,
notre
demain
ami.
Demain en direct à 11h,
en direct.
Par Émilie Aubry, notre nouvelle productrice.
Exactement,
France Culture. Alors que sur France Inter, il n'y aura rien à déguster.
Mais le café est bon, Sandrine Trainer, il est bon à France Inter.
Le café est absolument délicieux, d'ailleurs désormais nous descendrons prendre le café chez vous.
Mais vous êtes les bienvenus.
France Culture et France Inter, une chaîne... des chaînes qui font la force du groupe Radio France. Merci beaucoup Sandrine Trainer. Il est 9h20.
France Inter, le 6-9 du week-end. Éric Delvaux.
Et question ce matin sur l'humour, les humoristes et l'infotainment. On en parle ce matin sur France Inter avec Julien Bisson, directeur, rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le 1, qui consacre son dernier numéro à l'humour avec cette question en guise de titre. Peut-on rire de tout? Et puis nous a rejoint autour de cette table pour répondre aussi aux questions des auditeurs, l'humoriste Frédéric Sigrist. Bonjour Frédéric.
Bonjour Éric.
Que les auditeurs connaissent bien Frédéric, notamment dans la bande originale à 11h, entre 11h et midi et demi chez Nagui, et aussi sur scène, on en reparlera dans un instant. Frédéric, des humoristes dont on dit ces derniers temps qu'ils seraient sous surveillance de qui ou de quoi?
Alors, avant toute chose, faut distinguer les chroniqueurs, les animateurs qui font de l'humour, de l'humoriste sur scène. Oui. Parce que...
Vous êtes les deux.
Voilà, je suis les deux, et je dois avouer que ça va faire un certain temps que je suis sur scène. J'ai commencé en 97 et j'en vis depuis 2007. Et la scène reste l'ultime espace de liberté d'expression. On peut tout dire, il y a autant de sortes de formes d'humour sur scène qu'il n'y a d'humoristes. On peut aller voir le spectacle d'un Pierre-Emmanuel Barré. De l'autre côté, on peut toujours adhérer à l'humour d'une Florence Foresti. Sur scène, tout est possible.
Et sur France Inter aussi, vous avez une grande liberté de ton quand même.
Sur France, la France Inter est la station de radio qui laisse la plus grande liberté d'expression à l'humoriste. Maintenant, si on commence à parler d'humoristes qui ont envie de passer à la télévision... là, il y a un cahier des charges qui est différent. Parce que la télévision est un média qui est craintif, qui court après des cœurs de cible, et la moindre aspérité, le moindre discours qui pourrait un tout petit peu dépasser, ça les met dans des angoisses folles, ce qui fait que de temps en temps, il y a des réactions épidermiques. Donc, comme l'humoriste, c'est avant tout un fusible, parce que si jamais les spectateurs ne sont mécontents,
c'est la soupape, hein.
Voilà, ils envoient un mail, ils se plaignent. Et hop, on vire l'humoriste, on le remplace par un autre. C'est pour ça qu'il y a un gros turnover, mais je pense que c'est plus lié à la télévision qu'à d'autres médias.
Jadis, c'était le politique, le monde politique qui censurait les humoristes. Aujourd'hui, ce sont qui les associations et Internet?
Mais c'est ça qui a changé, c'est-à-dire qu'on cite souvent Pierre Desproges ou Coluche en disant « oui, aujourd'hui on ne peut plus rien dire ». Mais Coluche et Desproges n'ont pas connu l'effervescence des réseaux sociaux. Si jamais ils faisaient les mêmes sketchs qu'ils ont pu faire il y a quelques années aujourd'hui, il y aurait automatiquement des gens sur Twitter qui se mobiliseraient en disant « j'ai été profondément scandalisé par tel ou tel sketch ». C'est la parole en fait du spectateur qui s'est démultipliée et qui est beaucoup plus présente aujourd'hui.
Julien Bisson, rédacteur en chef du 1, c'est aujourd'hui Internet qui donne le « là » et qui sonne « lalali ».
Oui, ça peut en tout cas, mais on oublie surtout que Coluche et Desproges eux-mêmes ont été censurés à leur époque. Oui. Il y a une forme d'amnésie qui s'est faite en disant à l'époque qu'ils pouvaient tout dire, mais c'est pas vrai. Coluche lui-même avait été viré d'Europe 1, puis a été viré de RMC parce qu'il faisait des blagues sur la famille royale. Donc déjà à l'époque, il y avait des choses qui pouvaient les amener à... Desproges, pareil, a été viré de l'Aurore, le premier journal dans lequel il a travaillé, puis a été coupé au montage par TF1 dans son émission avec Jacques Martin. Donc il n'y a pas non plus une liberté totale de ton là-dessus. Il y a une forme d'amnésie. Nous, dans le 1, on a interrogé un historien, Pascal Horry, qui est un très grand spécialiste de l'humour, et qui rappelle qu'historiquement, on a ri de tout, mais il y a toujours eu de la censure. L'humour a toujours été borné par les interdits de chaque société. Aujourd'hui, ces interdits ont pour nom sexisme, homophobie, racisme, mais auparavant, ça pouvait être la féminité, la sexualité. À l'époque de Coluche et Desproges, il y avait très peu de blagues qui étaient faites véritablement sur la féminité. Donc, ces interdits sont mouvants à travers les époques.
Frédéric Sigrist, qu'est-ce qui fait que les sketchs de Michel Leeb sur les Africains sont désormais taxés de racistes, mais qu'il n'y a pas d'ambiguïté quand il s'agit des blagues africaines de Claudia Tagbo?
Il y a déjà une différence qui est frappante, et c'est qu'il y en a une qui est d'origine africaine et l'autre non.
Ça veut dire que pour faire de l'humour aujourd'hui, il faut le faire avec son autodérision sur sa propre communauté?
Pas forcément. Je pense que Michel Leeb est avant tout le produit d'une époque, d'une vision qu'on pouvait retrouver dans la littérature, dans la bande dessinée, même dans la télévision, des colonies. Grosso modo, c'était ça, des colonies, et que lui-même a surfé là-dessus, et qu'aujourd'hui, je pense que si jamais on pouvait aller dans sa psyché, on se rendrait compte qu'il doit se sentir un petit peu morveux, justement, d'avoir été l'incarnation de ça. Mais voilà, les époques changent, il y a des comiques, d'époque, de culture, et qui vieillissent mal. Et lui, il en fait partie parce que désormais, on voit plus le continent africain comme on le voyait à la grande époque de la colonisation en France. Mmh. Aujourd'hui, on sait que l'Afrique, c'est énormément de pays, énormément de cultures différentes. Donc, on a appris à respecter ça. Il y a les Antilles aussi. C'est aussi une culture en soi. Et en fait, grosso modo, on a juste appris à connaître mieux le monde qui nous entoure et les différentes cultures qui peuplent cette planète. Et donc, c'est évident que ça devient plus compliqué de faire des raccourcis et de stigmatiser un peuple plutôt qu'un autre. C'est ça qui a changé.
Est-ce qu'il vous semble que les tabous aujourd'hui sont plus nombreux qu'auparavant, ou en tout cas qu'ils ont changé? Ce ne sont plus les mêmes tabous, mais il y en a toujours dans l'humour?
Non, je pense pas qu'il y ait des tabous. Je pense que c'est devenu un tel business, l'humour, ces dernières années, avec des grosses boîtes de production, parce que il faut pas non plus sous-estimer ça. Universal, Lagardère, derrière de grands humoristes qui ont pignon sur rue sur des stations de radio ou à la télévision, et qu'aujourd'hui il y a vraiment des études de marché qui sont faites, même par rapport à un spectacle d'un humoriste. Et on dit ah, si jamais tu dis ça, tu vas te priver de tant de parts de marché, etc., etc. Et donc, il y a cette dichotomie qui s'est créée dans le monde de l'humour entre des humoristes qui disent « mais moi, j'en ai rien à faire, j'ai juste envie de dire ce que j'ai envie de dire et d'aller sur scène », et puis d'autres qui se disent « ah oui, mais il faut peut-être que je sois un peu plus fédérateur, j'ai pas envie de faire de leçons, j'ai pas envie d'être clivant », il y a tout ça.
L'humour est devenu un marché pour les chaînes de télévision. Si on reprend ce qui est arrivé à Tex pour sa mauvaise blague machiste, est-ce que, selon vous, Frédéric Sigrist, France 2, France Télévisions, a surréagit dans un contexte pour se séparer finalement sur l'animateur.
Je trouve que tout le monde surréagit sur cette histoire. J'ai vu des pétitions d'humoristes qui disent oui, la liberté d'expression est menacée. Et autant quand Volinsky, Cabu, tout ça se font attaquer par des djihadistes lors de l'attentat de Charlie Hebdo, je comprends. Et il y a nécessité de se mobiliser pour dire oui, la liberté d'expression, ça a un prix et il faut qu'on la défende. Mais en fait, Delphine Ernotte a dit il y a des mois de ça que de toute façon elle avait un objectif, c'était de transformer une chaîne de télévision et de faire disparaître certains animateurs blancs d'une cinquantaine d'années. Et elle l'a elle-même dit de manière assez maladroite. Et en fait, Tex s'inscrit dans cette logique comme d'éviction, comme l'a été Julien Lepers avant. Et ce que je trouve véritablement préjudiciable dans cette histoire, c'est d'avoir pris comme prétexte cette blague.
Il y a eu déjà des coups de semonce auparavant.
Voilà.
Visiblement, se séparer de l'animateur.
Voilà, et d'avoir pris ça et du coup, ouais, de donner à penser que c'est parce qu'il a dit cette blague-là qu'il a été viré et du coup de se mobiliser et de défendre une liberté d'expression alors que c'est juste une affaire interne à France Télévisions.
Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, qu'on parlait à l'instant du poids d'Internet et des associations pour donner le là de l'humour en ce moment. Un mot sur la mésaventure qui est arrivée au footballeur Antoine Griezmann, déguisé en Harlem Globetrotter des années 70. Ça a fait beaucoup de bruit sur Internet. Il s'en est excusé après. C'est la limite de quoi, de l'humour par rapport à Internet. Ça raconte quoi, cette séquence?
Je suis pas certain qu'Antoine Griezmann a voulu faire de l'humour.
Parce qu'il y a une soirée déguisée privée, entre amis.
Il s'est grimé avec donc du cirage noir pour ressembler à un basketteur noir.
Et on a ressorti le blackface des années...
Voilà, je pense qu'il y avait une forme de méconnaissance de sa part de la polémique qu'il peut y avoir sur le blackface, qui est donc ces acteurs blancs qui se mettaient du cirage noir pour jouer des personnages noirs, souvent, le plus souvent, ridicules, voire tout
le temps
ridicules.
Et moi qui suis blanc, si je veux me déguiser en Michael Jackson, je ne mets plus de noir sur ma peau?
Non, c'est pas une bonne idée de vous déguiser en Michael
Jackson.
Il faut trouver autre chose, Eric.
Ma question, c'est est-ce qu'Internet est devenu en fait un tribunal populaire, pour ne pas dire populiste?
Alors, Internet, en tout cas, a ouvert les vannes des réponses à l'humour. C'est-à-dire que ce qui pouvait se faire avant et qui n'avait pas de réponse, c'est-à-dire l'humour qui était fait avant dans une salle de spectacle ou sur une antenne de radio où le sketch passait, était écouté pendant 2 minutes et puis ensuite, simplement les gens qui l'écoutaient pouvaient ensuite en débattre. Cette époque-là est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous faites un sketch sur France Inter, il va pouvoir être pris au premier degré par des gens qui n'ont pas les codes. Mmh. Auparavant, les gens avaient les codes. C'est pas la même chose pour les unes de Charlie Hebdo. Mmh. Auparavant, Charlie Hebdo n'était lu que par les gens qui aimaient Charlie Hebdo et qui comprenaient, qui connaissaient les codes de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une une de Charlie Hebdo et la diffuser à des millions de personnes en France et à l'étranger, y compris auprès de personnes qui n'ont absolument pas ces codes-là. Mmh. Et donc, il y a un élargissement du public qui est problématique parce que du coup, on atteint des gens qui n'ont pas du tout les codes du second degré, qui n'ont pas les codes de ces publications-là, et donc peuvent réagir totalement au premier degré. Et ça, c'est un véritable problème parce que du coup, en effet, ça peut ouvrir les vannes à un tribunal populaire, voire populiste.
Frédéric Sigris, vous faites attention à Internet, aux réactions que ça peut susciter quand vous
On en a d'ailleurs un cas maison qui sont les chansons de Frédéric Fromet. Quand elles passent dans le cadre de l'émission Si tu écoutes J'annule tout ou désormais par Jupiter, tout le monde sait, tout le monde connaît Frédéric, on est habitué à un
ton... Ça dépend d'où l'on parle en fait.
Voilà, mais quand on extrait cette séquence et qu'on la met sur les réseaux sociaux et qu'on la distribue à des millions d'internautes, là les réactions sont différentes et tous les problèmes que Frédéric a eus n'ont pas eu lieu lors de la diffusion de l'émission, mais un ou deux jours après, quand la vidéo virale s'est propagée sur Facebook et où les gens ont pris tout ce qu'ils disaient pour argent comptant. Donc je pense qu'il y a on est un petit peu dans une problématique d'apprenti sorcier avec les réseaux sociaux et on mesure pas à quel point il y a une éducation qui manque à ce nouveau média, en fait.
Hervé Pochon, on va vous entendre dans 30 secondes, vous vouliez intervenir.
Non, mais je trouvais qu'on parlait des codes, et justement, par rapport à Antoine Griezmann, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais pas le code, et ça m'a pas choqué, quoi. Et c'est après que j'ai compris, et qu'on a un peu obligé Antoine Griezmann à s'excuser, parce que je pense que lui, c'est pareil, quoi. Il avait pas le code, il a fait un truc. Et c'est ça que je trouve bizarre, quoi.
Eh bien, merci, Julien Bisson. On va se référer à votre dernier numéro de l'hebdomadaire, le 1, faut-il rire de tout, les bonnes pages ici. Et puis, Frédéric Sigrist, on vous retrouve évidemment chez Nagui chaque mardi ou mercredi, je ne sais plus.
Chaque mardi.
Chaque mardi, voilà. Entre...
Et on me retrouvera aussi à 6h58, la première semaine de janvier.
Exactement. Et puis sur scène, donc je note, le 12 janvier, vous serez à La Passerelle, c'est à Fleury-les-Aubrais, également sur scène.
Près d'Orléans.
Près d'Orléans, le 3 février à Pleubian, vous me direz où
ça sent la Bretagne, ça.
et puis à partir du 3 mars, au théâtre Le Funambule, dans le 18e arrondissement de Paris, avec un nouveau spectacle qui s'intitule...
Tout le monde croit que je suis un type bien.
Et vous allez prouver le contraire.
Exactement.
Merci Frédéric Sigrist et merci Julien Bisson. Bonne journée.